Bon matin. Alors, je suis content d'être ici parmi vous. On va finir ensemble la saison. Et aussi, comme il a été dit, 2 Corinthiens, je ne sais pas quelle sera la suite. On aura le privilège d'en discuter. Mais ça a été quand même une belle excursion dans ce deuxième épître aux Corinthiens. Et ce matin, j'ai donné un titre, j'ai appelé ça 5 impératifs pour acquérir, c'est peut-être un gros mot, acquérir, pour acquérir la maturité, pour tendre vers la maturité. Je ne suis pas sûr qu'on l'acquiert totalement, puis un jour on se dit, hey, moi là, je suis mature, puis ça va bien, moi. Tu sais, on veut tendre vers la maturité. Donc, 5 impératifs pour tendre vers la maturité et aussi pour préserver l'unité. Et on a 3 versets. Et on va juste parler de ces 5 impératifs-là qu'on retrouve dans le verset. Dans les versets, on va lire ensemble. Donc, 2 Corinthiens 13, 11 à 13, qui va comme suit. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. » Donc, en fait, ça va être ça le message, un message sur un verset. Je veux quand même, on va quand même regarder les versets 12-13, mais on va se concentrer sur ces 5 impératifs-là. Et Paul va dire, « Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Donc, on a commencé l'étude, je ne sais pas ceux qui étaient là quand on a commencé ça, ça fait combien de temps? Ça fait un an passé, hein? Donc, je me souviens, c'est moi qui avais fait l'introduction, j'avais décrit le monde dans lequel Paul écrivait, donc le monde à Corinthe, qui était un monde sans Dieu, qui était un monde où le pluralisme était dominant, hein? Chacun avait sa patente, sa religion. En fait, il y avait assez de temples, il y avait assez d'idoles à Corinthe, puis pas juste à Corinthe, dans les villes alentours. Puis on pouvait choisir un peu qu'est-ce qui faisait notre bonheur. Et c'était vraiment rempli d'idoles et de temples. Puis là, tout à coup, l'Évangile arrive dans cette ville-là. Et une ville hein, qui était belle, que les hommes avaient fièrement bâtie. Et là, il y en a qui se convertissent. Et c'est ceux qui se sont convertis, bien sûr, ils sortent du monde. Hein? Quand on se convertit, on sort du monde. Dans le sens qu'on abandonne les pratiques dans le monde qu'on vivait. Mais malheureusement, quand on se convertit, on sort du monde, mais le monde ne sort pas toujours aussi vite de nous. Il reste toujours des traces de nos anciens péchés. Ça a été mentionné ce matin. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, il y a toujours des traces, nos anciens raisonnements qui peuvent nous suivre parfois. Puis oui, on veut soumettre ça au Seigneur, à sa parole, mais malheureusement, nos vieux péchés, souvent, c'est ceux qui vont revenir nous hanter ou nous avec lesquels on va lutter, même plus vieux dans le Seigneur. Puis ça, je l'ai eu tellement souvent comme témoignage de chrétiens de longue date. Donc, toujours ces traces-là. Paul dit, la loi du péché est encore dans nos membres. Oui, on veut plaire à Dieu, on est des nouvelles créatures, mais il y a cette loi. Je dis souvent, on est pris dans Romains 7. Hein, il y a la bataille du croyant dans Romains 7. Mais on le sait que Romains 8 est là, il n'y a aucune condamnation. Le péché, comme il a été dit, il vaut plus rien devant Dieu, il est pardonné, effacé. Mais dans la réalité, il y a ce combat-là. Puis c'est ce qui est arrivé aux Corinthiens, parce que dès la première lettre, et on a étudié la deuxième, mais quand on regarde dans la première lettre, il est question de débauche et d'inceste qui scandalisait même les non-croyants. Hey, imaginez, là, on est chrétien, puis on vit dans le péché, un péché qui scandalise les non-croyants. C'est quelque chose, il faut le faire. Bien, c'était le cas à Corinthe. Puis ça, on lit ça dans la première lettre. Il y avait aussi question de division entre eux. Et Paul les exhorte à être parfaitement unis dans un même esprit. Puis, j'écoutais le culte ce matin, puis les interventions. Je dis, il me semble que c'est pas mal de tout ça un peu que je vais parler aujourd'hui. Hein. Un même esprit, un même sentiment. Et dans la deuxième lettre, ce qu'on a vu, c'est les Corinthiens qui se sont laissés aussi influencer par des faux enseignants qui sont arrivés dans le décor. Vous savez, l'ennemi va tout faire pour briser, pour diviser l'Église, pour nous empêcher de grandir. Puis je vais en parler plus tard, parce qu'on va parler de l'unité tantôt, mais l'ennemi veut tout faire. Puis là, Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne ces cinq impératifs-là pour atteindre, pour tendre à devenir plus mature et pour préserver l'unité. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Et les deux derniers, je vais les traiter ensemble, parce que je trouve que ça reflète beaucoup l'unité. Ayez un même sentiment et vivez en paix. Donc, soyez dans la joie. On commence avec la joie, qui est fruit de l'esprit. La joie, c'est un élément, c'est le fruit de l'esprit, mais c'est extrêmement important dans notre témoignage chrétien. Autant personnel, mais autant qu'en Église aussi. Parce que vous savez, les gens nous regardent. Ils nous regardent, ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient quand ils nous regardent? Ils voient qu'on est du monde un peu comme eux autres, dans le sens qu'on vit les mêmes épreuves. On vit, on a la maladie, on perd des êtres chers. Moi, j'ai mon père qui oublie, qui ne me reconnaît plus. Donc, les gens nous voient, ils voient qu'on vit les mêmes choses, les mêmes épreuves, mais ils voient qu'on garde la joie. Du moins, ils devraient voir qu'on garde la joie. Et ils se demandent pourquoi. Puis j'espère, ça, c'est ça le but un peu d'avoir une approche différente devant ces épreuves-là. On a l'espérance. On a une espérance que les gens du dehors n'ont pas. Et ils devraient voir cette foi-là, cette joie-là plutôt, en nous, même quand on vit des épreuves. Il y a quelques semaines, on faisait un feu chez nous, hein, puis Meredith, ça c'est ma plus jeune, là, a dit, « La vie est plate, parce que vous allez toutes mourir. » Puis Meredith, elle a souvent cette idée-là, parce que c'est la dernière. Fait qu'elle, dans sa tête, ses parents vont partir, vont mourir, puis ensuite, ça va être ses sœurs, puis elle, c'est la plus jeune, fait qu'elle va partir en dernier. Alors, elle anticipe éventuellement d'être toute seule parce qu'on va toutes mourir avant elle, puis ça la rend triste. Et là, on a parlé de la mort, on a parlé de tout ça, puis heureusement, Emma était avec moi, ça c'est mon aîné. Puis on a pu lui rappeler que oui, la vie est difficile, puis oui, il y a la mort, il y a la maladie, il y a la tristesse, mais la vie est belle. Puis, vous savez, la vie est belle. Même des non-croyants vont avoir cette philosophie-là. Je l'entends souvent, même chez les non-croyants. La vie est belle, puis il ne faut pas regarder au négatif. La vie est belle, puis on prend ça du bon côté. Il y a même un film qui s'appelle « La vie est belle ». Je ne me souviens pas, j'ai vu ça il y a des années. Puis c'est vraiment l'idée de toujours prendre le bon côté. Puis, je disais, tu sais, même les non-croyants vont être d'accord pour dire « La vie est belle. La vie est merveilleuse. » Mais imaginez, nous, on a le Seigneur en plus. Alors, un non-croyant qui dit « la vie est belle » puis qui embrasse la vie malgré les... ça devrait être encore une coche, puis deux, puis trois coches de plus, parce que nous, on a le Seigneur. La vie est belle, mais j'ai le Seigneur en plus. Notre espérance. Alors, on a rappelé à Meredith que oui, il y a des choses difficiles, mais la vie est belle, puis en plus, tu as le Seigneur. Une espérance, t'es sauvé. Jean 17 nous dit, « Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le Saint-Esprit, il devrait, il peut, puis on devrait avoir ce fruit-là qui se manifeste malgré l'épreuve. Mais c'est difficile de garder la joie. Et c'est pour ça que je pense que c'est un commandement. Soyez toujours joyeux. Êtes-vous toujours joyeux? C'est facile de dire la vie est belle, puis en plus on a le Seigneur, puis là on se réjouit, mais honnêtement, là, c'est pas facile parce qu'en vieillissant, on accumule les années, puis en vieillissant, on accumule les responsabilités, puis on accumule les tracas, puis on accumule les enfants aussi. Je me souviens quand j'avais pas d'enfants, ben, mais là j'ai eu 5 filles, puis là je me souviens que quelqu'un m'avait dit, ben là, il dit, t'as 5 fois plus de chances d'avoir des épreuves dans ta vie. Mais c'est vrai. Parce que, tu sais, c'est plus juste moi, puis j'ai mes enfants, puis nos, on pourrait compter nos proches, plus qu'on est proche de notre famille, ou même mes neveux, nièces. Je veux dire, on vieillit, on accumule toutes sortes de l'âge, on accumule les responsabilités, donc on multiplie le potentiel d'épreuves. On multiplie le potentiel de problèmes de santé. Puis quand j'enseignais ça à Lobinière, il y a une madame qui dit, ah, puis il y a nos petits-enfants. Ben, je dis, je suis pas rendu là. Mais c'est vrai, petits-enfants, puis ensuite les arrière-petits-enfants. Donc, on multiplie. Plus on vieillit, plus on augmente le potentiel que notre joie soit ébranlée. Parce qu'on va éventuellement, si c'est pas nous, quelqu'un, un de nos proches, peut vivre quelque chose. Mais Paul dit, soyez toujours joyeux. Et si Paul le dit, je pense que c'est parce que lui-même vivait ce qu'il disait. On enseigne, c'est pas vrai qu'on vit nécessairement tout ce qu'on enseigne dans le sens qu'on tend à une perfection, on enseigne. Mais je pense que Paul, quand il dit « soyez toujours joyeux », je pense qu'il vivait la joie. Je pense que Paul l'expérimentait. Je ne pense pas qu'il exige ça comme ça sans que lui l'ait lui-même expérimenté. Et puis on le voit, hein, comment l'apôtre Paul a vécu toutes sortes d'épreuves. Bon, il a vécu des naufrages, il a vécu la faim, la foi. Tu sais, il dit à un moment donné tout ce qu'il a vécu. Puis il est capable de dire, soyez toujours joyeux. Donc, je pense qu'il a réussi à être toujours joyeux. Puis je vous donne deux raisons pourquoi je pense que Paul était capable d'expérimenter la joie. Premièrement, je pense que parce que Christ était sa vie. Et puis ça, c'est... Qui est capable de dire ce matin, là, Christ est ma vie? C'est gros, là. Tu sais, on peut le dire dans le sens que, bon, j'aime le Seigneur, puis. Mais Christ, c'est ma vie. C'est le but. C'est juste lui. Je trouve ça extrêmement profond comme vérité que Paul va dire. Dans Philippiens 3:8, et même, il dit, je regarde toute chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et bien sûr, on veut renoncer à tout. Mais dans la vie, dans la pratique, dans le concret, c'est pas toujours ce qu'on fait. Et il dit, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alors pour Paul, Christ, tout ce que Paul faisait, tout ce qu'il disait, on lit les actes, on lit toutes, même ses lettres, son but était de gagner Christ. Alors, plus notre cœur va s'attacher au Seigneur, plus il va devenir notre source de joie. Et pour Paul, le Seigneur était toute sa vie, c'était Christ qui était sa première source de joie. Et c'est pour ça que je pense que sa joie demeurait ferme. Parce qu'elle était dans le Seigneur. Et on commet souvent l'erreur, puis moi le premier, de rattacher notre joie aux circonstances de la vie. Puis moi, il y a quelques semaines, c'est ça que j'ai fait. Parce qu'il y a quelques semaines, là, j'étais pas dans la joie. Puis je trouvais ça dur parce que là, j'avais un cours, puis j'avais beaucoup de travaux à faire, puis là, la semaine qui s'en venait, j'avais l'heure de la bonne nouvelle, fallait que je prépare les... Puis je regardais tout ce qui se passait, puis mon père qui est malade, puis... Puis j'étais vraiment pas dans la joie. Puis donc c'est comme si ma joie se rattachait aux circonstances, parce que c'était pas des circonstances vraiment le fun, favorables. J'étais pas dans la joie. Donc mon focus était pas du tout à la bonne place. Et j'ai ressorti ce message-là parce qu'il y a 2 semaines j'ai été à Lobinière pour Lobinière puis vous, c'est comme chacun, tu sais, on suit. Et là quand j'ai sorti ça, j'ai fait comme wow, tu sais. J'ai enseigné ça il y a 4 ans à l'assemblée. Puis moi-même, tu vois, je l'enseigne, puis j'ai de la misère à mettre ma joie à la bonne place. Et ça m'a rappelé. Ça me fait du bien de me rappeler. Puis tu sais, on se répète tout le temps les mêmes affaires. À l'heure de la bonne nouvelle, on prêche, puis tu sais, je disais ça au gars du son, je dis, tu sais, on répète tout le temps les mêmes affaires. Et ma mère a dit, ouais, tu sais, parce que c'est tout le temps l'Évangile, l'Évangile. Je dis, bien, inquiète-toi pas, on va toujours revenir répéter la même affaire ici. Mais dans nos églises, c'est la même chose. On répète toujours les mêmes affaires, parce que moi, j'avais déjà enseigné ça, puis j'étais en train de vraiment aller à côté. Puis je ressors le message, puis ça m'a fessé ce matin-là. Je dis, wow, mon focus est tellement pas à bonne place. Et vous savez, soyez toujours joyeux, ça ne veut pas dire d'être toujours souriant, puis qu'on n'a pas le droit d'être triste. Il faut faire la distinction, hein, je veux dire, on a le droit d'être triste. Je veux dire, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a été triste jusqu'à la mort. Ben, si Jésus a été triste jusqu'à la mort, ben, j'ai le droit, je pense, d'être triste, d'éprouver une tristesse. Puis en plus, il dit « mon âme », et le mot grec vraiment en français, c'est « est profondément attristé », »,« est accablé de tristesse ». Parce qu'il savait ce qui s'en venait, là. L'événement, pour lui, ça, il tentait pas vraiment d'expérimenter cette séparation, puis la colère de Dieu, c'était intense, au point de faire des grumeaux de sang, puis d'être angoissé. Donc, il était triste jusqu'à la mort. Au point d'en mourir. Hey, c'est une tristesse au point d'en mourir, de vouloir en mourir, quasiment. Mais Jésus a prié, un ange est apparu du ciel, il est venu le fortifier. Donc, même si l'épreuve, la tristesse nous atteint, on a le droit d'être triste, mais on peut expérimenter la joie. On peut expérimenter la joie d'appartenir au Seigneur, la joie de nos péchés qui sont pardonnés, de notre espérance, qu'on sait qu'on va être un jour dans la présence du Seigneur. Alors, pour Paul, Christ était sa vie. Et puis, c'est ça qu'il faut comme toujours ramener. C'est pas les circonstances. Non, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Puis, c'est un travail à faire. Ça demande un effort. Puis, l'autre chose qui est importante, que je pense pourquoi il expérimentait, c'est parce que Paul marchait dans l'obéissance. Vous savez, le péché enlève la joie. Je suis sûr que vous l'avez tout expérimenté. Le péché, qu'on tolère, qu'on permet, ou pas qu'on permet dans le sens que c'est pas grave, mais qu'on tombe, puis qu'on se relève, on continue, mais le péché va nous enlever la joie. Puis si on arrive à un point de le tolérer, puis de dire c'est pas si pire, ou je suis comme ça, bien là, ça va être encore pire. Le péché va encore bien plus venir me siphonner ma joie. Puis le Saint-Esprit va pas manifester la joie. Si je tolère un péché, il va plutôt manifester la conviction de péché pour que je me détourne. Puis des fois, ça peut être long. Des fois, on peut être endormi parce qu'on... Vous vous rappelez David, quand il a péché avec Bathsheba, puis il est allé même faire tuer quelqu'un, un meurtre. Pour lui, il était comme, on dirait qu'il s'en rendait pas compte, jusqu'à temps que Nathan, le prophète, vienne. Puis là, Nathan, il fait son histoire. Hein? Vous vous rappelez de l'histoire avec la brebis, puis l'homme qui a pris... Puis là, David, il ne se rend même pas compte qu'il parle de lui. Donc, il était vraiment comme dans son péché. Puis là, à un moment donné, ben là, hey, il faut qu'il meure, cet homme-là. Puis Nathan, il dit, hey, c'est toi que je parle. Mais premièrement, il y a eu cette conviction-là. Mais ça a pris le prophète. Des fois, Dieu peut servir de quelqu'un parce que justement, on est peut-être endurci. Mais il y a eu la conviction de péché. Nathan lui a dit, c'est toi. Ensuite, il s'est repenti, puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Rends-moi la joie de mon salut. » Donc, la joie, on la perd si on est dans un péché ou qu'on tolère des choses qu'on ne devrait pas. Donc, celui qui marche dans l'obéissance et qui s'attache fermement au Seigneur va être capable d'expérimenter la joie, même au travers la tristesse, les moments difficiles. C'est ça qui fait la différence entre nous et les gens de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on pleure jamais, qu'on n'est jamais triste, toute la vie est belle. Ça veut dire qu'à travers la tristesse, à travers l'épreuve, on a l'espérance. Puis quand on médite notre espérance, on est dans la joie. Parce qu'on le sait que le Seigneur nous attend. Puis qu'on va être dans sa présence. Donc, réjouissez-vous. Le deuxième impératif, perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. Et l'idée ici de ce mot-là, c'est mettre en état de bien fonctionner. C'est comme réparer quelque chose, mettre en ordre, restaurer, améliorer. Vous vous rappelez dans Matthieu, quand ils réparaient leur filet, c'est le même mot. Ils sont en train de réparer leur filet, ils sont en train de perfectionner leur filet. On pourrait dire rectifier vos voies. Parole vivante va dire tendez vers la maturité réelle. Si on est des enfants de Dieu, il ne nous manque rien. D'accord, on a le salut en Jésus-Christ, on a tout en Jésus-Christ. Mais parfois, il faut réajuster nos vies selon les Écritures. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, ben, comme moi, il y a deux semaines, ma joie dépendait des circonstances. Tout d'un coup, je disais, il faut que je me ramène vers les Écritures. Donc, oui, il ne nous manque rien, mais il faut rectifier, il faut corriger. Puis c'est pour ça qu'on se répète la même chose tout le temps. Moi, je suis quand même surpris de voir, à chaque fois que j'enseigne à l'Assemblée, je dis, ben ça, j'ai l'impression que je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire. Parce qu'il faut se redire ces choses-là. Il faut constamment se redire ces vérités-là. Parce que c'est pas vrai qu'on les apprend une fois pour toutes. On est lent à comprendre, bien souvent. Donc, il faut toujours être en train de s'examiner. Il faut toujours être en mode perfectionnement, corriger nos voies. Et moi, dans les premières années de ma vie chrétienne, écoutez, je peux-tu me baisser un peu? Ça me semble que c'est fort. Hein? Mais dans les premières années de ma vie chrétienne, j'écoutais les prédications, puis j'étais en mode évaluation du prédicateur. Honnêtement, là, j'étais assis avec un de mes amis, puis à la fin, on critiquait, puis on donnait une note sur 10. Tu sais, genre, des fois c'était un 8 sur 10, des fois c'était un 4 sur 10, puis des fois c'était peut-être plus bas, je sais pas, mais. Et un peu comme aller au cinéma, tu sors du cinéma, puis tu sais, tu donnes une note au film, oh, celle-là, je vais le réécouter, ou celle-là, je vais dire au monde d'aller l'écouter, celle-là, plus jamais, tu sais. Donc, j'étais vraiment en mode comme ça, avec les prédicateurs. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que cette approche-là ne contribuait pas beaucoup à me perfectionner. En fait, ça contribuait à pas grand-chose. Je pouvais même pas aider le prédicateur à se perfectionner s'il avait une mauvaise note. J'allais même pas le voir après, là. T'sais, c'était juste, je donnais une note. Alors, j'ai commencé à écouter les prédications. Et puis ça fait des années que je me suis comme mis cette règle-là en disant je vais m'évaluer moi-même. Je vais arrêter de penser, es-tu bon, y a-tu un bonhomme, il est éthique. Ça veut pas dire que c'est correct s'il est. Comprenez l'idée, là, tu sais. Je vais arrêter là de regarder lui, là, puis je vais regarder, je vais écouter, puis je vais penser à moi. Qu'est-ce que le Seigneur a à me dire ce matin. Puis même si le message il est moins bon. Parce qu'en 40 minutes, il doit bien y avoir un petit quelque chose pour moi. Parce que c'est quand même la parole de Dieu qui est enseignée en avant. Alors j'ai dit, je vais commencer à écouter. Puis même si je m'endors, trois quarts, je vais me forcer à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? Puis honnêtement, si vous faites ça, le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous montrer des choses. Parce que, en tout cas, moi, j'ai été longtemps quand même, avant de changer, avec un peu une mauvaise attitude. Bon, ah, c'est qui prend? Ah, pas là, qui est pas lui. Tu sais, on est un peu des fois en mode, lui est intéressant, puis même dans les profs que j'ai eus à l'école, il y en a qui c'était les vrais somnifères. Tu sais, je le mettais à x2 pour l'écouter en vidéo, puis il était normal à x2. Imaginez à x1, tu sais, sur place, c'est comme, ouh! Mais on est souvent en mode comme ça. Puis là, on écoute, puis on critique, puis ci, puis ça. Donc, je dis, on va shotter ça, puis je vais m'ouvrir à qu'est-ce que le Seigneur t'a à me dire. Puis le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous montre des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être les gens qui sont moins, qu'il ne faut pas devenir des meilleurs prédicateurs. Oui, il faut travailler, puis on peut se critiquer constructivement, puis amène à ça. Je suis toujours ouvert à ça. Donc, fait que j'ai dit, je vais m'évaluer moi-même. Matthieu nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On s'entend qu'on ne pourra jamais être parfait comme le Père, mais on tend vers ça. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Moi, je trouve ça encourageant, ça. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Donc, on est appelé à se perfectionner, mais au final, c'est Dieu qui fait le travail en nous. Mais il faut être ouvert, il faut être en mode perfectionnant pour que Dieu fasse son travail en nous. Donc, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Consolez-vous. Consolez-vous, c'est le troisième impératif. C'est un mot qui a aussi le sens de fortifier, encourager, exhorter. Et Paul, il veut que les Corinthiens vivent ça. Parce qu'il faut toujours se mettre dans la peau, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vivent? Bien, les Corinthiens sont ébranlés dans leur foi, sont ébranlés dans leur fondement même. Alors, Paul espère qu'ils se fortifient ensemble, qu'ils s'encouragent, qu'ils s'exhortent, qu'ils se tiennent. On est tous encouragés à faire ça aussi entre nous. Mais dans ce verbe-là, il y a l'idée du corps de Christ. Donc, c'est pas écrit, voici, ici, je parle du corps de Christ, mais il y a vraiment l'idée du corps de Christ dans « consolez-vous ». Parce que pour être capable de se consoler, il faut se côtoyer. Moi, je peux pas consoler mon frère si je le vois pas. Puis pour se côtoyer, il faut se rassembler. Puis pour se rassembler, il faut venir ensemble dans un lieu de culte. Il y a des gens qui aiment l'Église à la maison, sur Internet. Je comprends qu'il y a des gens qui sont qui ont de la difficulté à se déplacer. Ça peut être large. Mes parents, ils vont presque plus physiquement à l'église à cause de la maladie à mon père. Donc, je comprends tout ça. Mais quand c'est le jeune de 32 ans qui dit « Non, moi, l'église, c'est l'église Internet, puis j'écoute tel. Pour moi, ça sonne des petites lumières d'alarme. Puis là, je veux pas mettre une pression puis faire sentir les chrétiens coupables de manquer une réunion de l'Assemblée. Je veux juste souligner l'importance de l'Église locale. David Platt, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur David Platt. En tout cas, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Puis le dernier livre que j'ai lu de lui, qui s'intitule « Suis-moi », il a consacré un chapitre entier pour l'Église locale, puis j'ai trouvé intéressant ce qu'il a raconté au début du chapitre. Puis je vais vous lire. C'est l'histoire d'un prédicateur qui lance un appel au salut. Puis écoutez son appel. Ensuite, on va regarder la critique de David Platt. Voici l'appel. Il dit « Ce soir, j'aimerais vous appeler à placer votre foi en Dieu. » Bien, hein? À date, ça va? Ouais. « Ce soir, je vous supplie d'entrer dans une relation personnelle avec Jésus, peut-être pour la première fois de votre vie. » On est toujours correct, hein? Ouais. Il dit « Que les choses soient bien claires. Je ne vous invite pas à rejoindre l'Église. Je vous invite simplement à venir à Christ. » Et c'est dans cette dernière phrase-là que l'auteur accroche, puis moi aussi. Et voici ce que l'auteur va dire. Il dit « Ces personnes avaient été trompées. On leur avait dit qu'il était possible de s'engager avec le Christ sans s'engager avec l'Église. La réalité est pourtant tout autre. Il est bibliquement impossible de suivre Jésus sans rejoindre son Église. » Bon, faut nuancer, là, puis je vais nuancer, parce qu'il n'est pas en train de dire que pour être sauvé, il faut rejoindre une Église. Parce que ça n'a pas d'allure de dire ça, on le sait que ce n'est pas par les œuvres. Mais l'importance, c'est un peu comme Jacques, tu sais, quand Jacques il dit quelqu'un qui dit avoir la foi, puis qu'il n'y a pas les œuvres, ça ne marche pas. Ben moi, je vous dirais, ça c'est moi qui le dis, quelqu'un qui dit avoir la foi et qui ne veut pas joindre l'Église locale, pour moi, ça sonne comme aussi, ça ne marche pas pour moi. Puis je sais, quand on est de nouveau, Dieu nous ajoute au corps de Christ. Une nouvelle naissance, on est sauvé. Dieu n'attend pas de voir si je vais à l'Église pour dire, ah, finalement, tu y vas, OK, tu es correct, je te sauve. Non. On est sauvé, on est né de nouveau. Mais si le nouveau croyant qui se convertit, il refuse de se joindre au corps de Christ, je ne dis pas qu'il n'est pas sauvé, mais je trouve ça vraiment inquiétant. C'est ça mon point. Puis c'est ça le point de l'auteur aussi. Le corps de Christ, c'est le plan de Dieu. Ouvrez votre Nouveau Testament, Actes, toutes les lettres, c'est le plan de Dieu, le corps de Christ. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais c'est l'Église universelle. Oui, l'Église, le corps universel, on est tous le corps de Christ. Mais dans les Actes, puis dans le Nouveau Testament, les lettres, il n'écrit pas des lettres au corps universel. Il écrit des lettres à des églises précises. Où est-ce qu'il devait mettre des anciens? Où est-ce qu'il y avait des diacres? Il y avait quelque chose qui se passait vraiment dans des églises locales. Donc, c'est vraiment important de se rappeler ça, l'importance de l'Église locale. L'Église, c'est l'épouse de Christ. On ne peut pas ne pas aimer son épouse. Moi, je me rappelle, on a visité des amis, Marie-Pierre et moi, il y a, ça va faire une dizaine d'années, ça passe vite, hein, mais on est allé chez des amis, puis clairement, c'est des amis qu'on aime beaucoup, mais clairement, ils avaient vécu toutes sortes de choses dans l'Église, et là, ils étaient à une étape de leur vie où ils n'allaient plus dans l'Église, dans aucune Église. Ben, ils faisaient peut-être une Église chez eux avec une couple d'amis, là. Puis je suis pas en train de dire que les églises maison, c'est pas bon, là. Mais tu sais, clairement, lui, il avait abandonné l'Église, puis il voulait plus rien savoir, puis il avait dit dans la soirée, il dit, ah, il dit, moi, l'Église, je suis plus capable. Puis je me souviens, puis clairement, il y avait de la rancune, il a vécu des choses, puis je comprends qu'il y a des gens qui ont vécu toutes sortes de choses dans les églises, même des choses atroces. Mais tu sais, c'est pas de dire j'abandonne puis je ne veux rien savoir, trouve-toi une autre église. C'est le plan de Dieu. Mais je me souviens que Marie-Pierre, quand elle l'avait entendu dire, elle la regarde droit dans les yeux, puis des fois, Marie-Pierre n'est pas gênée pour dire ce qu'elle pense, mais elle dit, mais comment peux-tu ne pas aimer l'Église? Comment peux-tu ne pas aimer l'épouse de Christ qui est mort, qui s'est sacrifiée pour elle? Elle a lancé ça vraiment du tac au tac, puis honnêtement, il a comme fait da-da-da. Il dit, ouais, non, et là, il s'est comme un peu repris, tu sais, c'est pas l'Église, l'épouse, c'est juste certains chrétiens qui l'ont blessé. Donc, Jésus a donné sa vie pour l'Église. Puis nous, on va juste lever le nez sur l'épouse de Christ parce qu'on n'est plus capable de l'endurer. C'est ce que certains font, puis je pense qu'ils font fausse route. On pourrait s'asseoir pour dire, oui, mais il y a eu telle situation, puis oui, il y a des cas, c'est pas toujours blanc et noir, il y a des cas très complexes. Mais je pense pas que lever le nez sur l'Église, puis bouder l'Église à cause de XX, c'est la solution. Il faut se rappeler que les déceptions, il faut se rappeler que les blessures, même au sein de l'Église, font partie aussi du plan de Dieu pour nous. Le but de Dieu, c'est de nous former à travers. On est tous des pécheurs ensemble. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? C'est sûr que ça va donner des accros. C'est sûr que ça va donner des querelles, des chicanes. Mais ça fait partie du plan de Dieu. Mon futur gendre, il y a un mois, il a vécu des semaines épouvantables. Ben, épouvantables, tu sais. Rien de dramatique, la vie n'était pas... Mais tu sais, ses plans, parce que lui, il vient du Taïwan, il a des plans pour étudier ici, puis ça ne fonctionnait pas comme il voulait, puis là, il y avait comme, hey, ils vont-tu falloir, je retourne, puis là, il va marier ma fille, puis t'imagines qu'il se marie, puis il faut qu'il retourne, mais là, il est supposé de rester quelques années, puis là, ça marche. Puis là, il était vraiment, vraiment découragé, parce qu'il y avait comme toutes sortes d'épreuves, puis c'est ça que je me suis assis avec, j'ai dit, écoute, John, j'ai dit, Dieu te forme. T'es à l'école de Dieu présentement. Arrête de vouloir que ça soit parfait comme toi tu veux, puis prends ça comme ça vient, puis fais confiance au Seigneur. Dieu est en train de te former. Et c'est ce qu'il a comme réalisé, puis il a un peu changé sa perspective. Mais c'est comme ça que ça se passe. On est des croyants authentiques, bien, on est appelé à être ensemble. Même quand ça ne va pas bien, on est appelé à partager ensemble la vie de Jésus-Christ. On est appelé ensemble à édifier son corps à travers les bons moments, mais aussi à travers les mauvais jours, à travers les querelles. Puis moi, je veux dire, j'en ai vécu des affaires dans les derniers 30 ans qui j'aurais pu dire, bon, ça marche pas comme je veux, puis moi, je m'en vais. J'aurais pu, parce qu'il y a des choses qui sont venues me blesser profondément. Mais Dieu sert de ça. Puis il faut juste se rappeler que le plan de Dieu, c'est l'Église locale, puis pas l'Église locale parfaite, avec des hommes, des femmes qui luttent encore avec le péché, puis qu'il y a des accros. Donc, on est appelé à être ensemble, s'aimer les uns les autres, s'exhorter, se supporter les uns les autres. Moi, quand je prie pour les chrétiens de l'Assemblée, je prie souvent pour que Dieu me donne l'amour pour ceux qui sont pas aimables, mais moins aimables. Il y en a qui sont moins aimables. Puis peut-être que je suis un moins aimable pour quelqu'un. Hein? Vous pensez à ça? Peut-être que moi, je suis un moins aimable. Mais je dis, Seigneur, donne-moi l'amour pour ceux que j'ai plus de misère. On est appelé à ça. Se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Se consoler les uns les autres. Je suis tout le temps surpris de voir, moi, je ne veux pas nommer, mais un frère que j'aime beaucoup. Puis il dit ça, hein? Il dit, je comprends pas pourquoi les chrétiens ont des situations entre eux, puis qui perdurent. Il dit, je comprends pas. Puis jusqu'à temps que lui-même vive quelque chose, puis que je dis, je vais aller dire ce qu'il dit depuis toujours. Parce que là, il était rendu que ça le touchait, puis je voyais qu'il y avait de la misère, finalement. C'est dur. Mais il faut se pardonner les uns les autres. Puis ça veut pas dire redevenir les meilleurs amis. Le pardon et la réconciliation, c'est deux choses. Si je peux pardonner, ça ne veut pas dire que je suis obligé de redevenir ami avec la personne parce qu'il peut y avoir des éléments, mais il y a un pardon qui est nécessaire. Un pardon qui est nécessaire. Et éventuellement, une réconciliation qui est souhaitable aussi. Mais des fois, ça peut être très difficile à cause des situations. Dis-moi, imaginez quelqu'un qui abuse d'un enfant, mais... Puis là, peut-être qu'il se fait mettre dehors, peu importe, mais je vais pardonner, mais ça se peut que la relation soit brisée à jamais, là. Mais je vais pardonner. Le Seigneur me demande de pardonner. Parce que des fois, les gens pensent que pardon, il faut redonner les meilleurs amis, puis je pense pas que c'est ça que le pardon veut dire. Mais c'est un beau sujet de discussion, clairement. Donc, le temps avance vite. Je pense que je suis supposé l'avoir fini. Je suis rendu au quatrième point, mais je vais me dépêcher. Donc, le quatrième et cinquième que je mets ensemble, ayez un même sentiment et vivez en paix. Paul appelle les Corinthiens à l'unité avec ces mots-là, un sentiment qui est commun et vive en paix. Et à l'Église, j'avais demandé à l'Assemblée, est-ce que nous sommes une Assemblée unie? Puis là, je dis, OK, je vais rephraser ma question. Parce qu'on peut tout dire, ben oui, on est une assemblée unie. Fait que là, j'ai dit, je vais rephraser. Est-ce que moi, je suis uni avec mon assemblée? Est-ce que moi, je suis attaché à mon assemblée? Parce que les gens pourraient dire, bon oui, on est une belle église unie, mais écoute, je te vois jamais, ou quand on a des choses, tu n'es jamais impliqué, me semble que je vois pas ton engagement, me semble que je vois pas ta loyauté. Donc, reposons les questions, mais personnel, est-ce que moi, je suis uni? Est-ce que moi, je suis attaché? Est-ce que moi, je suis personnellement, moi, Martin Lébreux, engagé envers mon assemblée, solidaire avec mon assemblée? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser au jeu. L'unité, c'est quoi? Je définis un peu l'unité, puis vu que le temps passe vite, ensuite, je vais regarder comment on peut garder l'unité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Souvent, on veut que tout le monde pense comme soi. Avoir le même sentiment, ça ne veut pas dire d'être des clones. Je suis convaincu que la diversité est importante. Moi, je suis content quand un matin encore, je parlais avec un frère à l'Assemblée, parce qu'avant de venir ici, notre culte est à 8h30, je vais tout le temps à l'Assemblée, puis je vais jaser avec le monde. Puis un matin, on s'obstinait pas, mais tu sais, on n'était pas d'accord. Puis à un moment donné, je dis, hey, regarde, J'ai dit, c'est super. Moi, je suis content qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Ça, c'est la beauté. On a le droit d'être pas tous d'accord sur tout. Donc, ce n'est pas l'uniformité. On doit avoir un but commun de glorifier Christ, d'élever le Seigneur Jésus. Puis je sais que mon frère, c'est son but. Il veut élever Christ. Il veut qu'il soit à la première place, comme moi. Donc, dans les petits détails, après, je dis pas bien grave, même si on n'est pas tous d'accord sur tout. Ensuite, l'unité requiert une base solide. On est unis à cause de quelque chose de solide. Puis nous, c'est solide, il n'y a rien de plus solide, c'est l'Évangile. Donc, on est unis sur l'Évangile. On est toujours unis à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Éphésiens nous dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, l'Évangile, Christ qui est mort. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, on a cette base-là solide, c'est l'Évangile. L'unité doit être maintenue et non créée. L'unité, on l'a déjà en Christ. C'est un don de Dieu. Puis on est appelé à la conserver. Éphésiens, c'est ce qu'il va nous dire au chapitre 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien. Ensuite, l'unité grandit lorsqu'elle est menacée. C'est spécial, ça. Et là, je vous ramène à la crise de la COVID. Vous dites, ah non, il ne va pas parler de la COVID un matin en 2026. Non, mais vous savez, ça a quand même brisé des églises dans le monde. J'étais témoin de choses. Et nous, à l'Assemblée, moi, j'ai vu des gens qui étaient blessés durant la COVID. J'ai vu des gens, j'ai vu de l'humilité quand même aussi. J'ai vu de l'amour. J'ai vu du pardon, mais j'ai vu de l'unité. Puis moi, j'ai été édifié par plusieurs personnes, comment ils ont réagi à travers cette crise-là. Et vous savez, le vrai combat, c'est mon opinion à moi, mais je suis quand même convaincu, mais le vrai combat, c'était pas de se positionner pour ou contre le vaccin ou pour ou contre le passeport. Pour moi, le vrai combat, c'était de voir si on allait tenir ferme dans notre unité. Il ne faut pas perdre de vue l'enjeu premier, qui est l'unité du corps de Christ, pour des enjeux qui sont secondaires, qui n'ont aucune portée éternelle. Mais je comprends que ça vient chercher beaucoup d'émotions à fleur de peau et les gens qui sont... Mais je pense que certains ont perdu de vue. Le vrai but, c'est l'unité du corps de Christ. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais il faut préserver l'unité. Extrêmement important, mais je sais que c'est un sujet sensible. L'unité est la sœur jumelle de la solidarité. Bon, je ne veux pas parler nécessairement de ça parce que je suis déjà à 26, désolé. Je finis juste avec comment conserver l'unité et vivre en paix. Accepter les différences. Il faut parfois être d'accord, d'être en désaccord. Vous le savez, on le vit dans toutes sortes de situations de la vie, mais à l'Église, c'est important. Accepter d'être pas toujours en accord ensemble. Renoncer à vous-même. Mourir à soi. Regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Puis pas être toujours à vouloir gagner son point. Puis c'est moi qui ai raison. Puis peut-être tu as raison, mais humilie-toi, puis laisse l'autre être. Regarde-le comme étant au-dessus de toi. Donc, renonce à toi-même. Un point important. Ne soupçonnons pas le mal. Troisièmement, vous savez, les gens qui nous blessent, pensez-vous qu'ils sont levés le matin en disant, « Ben moi, aujourd'hui, mon but, c'est de blesser Gilles. » C'est pas le but des gens de se blesser. On se blesse parce qu'on est maladroit. On se blesse parce qu'on est pécheur, mais on se blesse pas. On ne soupçonnons pas le mal. Puis encore récemment, il a fallu que je rappelle ça à quelqu'un qui dit, « Ouais, mais il a fait ça, pour ça, pour ça, pour ça. » Je dis, « Non, arrête, là. » Je dis, « Soupçonne pas. Soupçonne pas le mal. » Les gens, ils font pas ça. Il y a la maladresse, oui, mais... Ensuite, rechercher la paix. Je vais vite parce que je suis conscient que je l'ai échappé un peu ce matin, mais ne fuyez pas les conflits. Je trouve que des fois, on essaie de balayer ça, puis on s'est réglé, puis c'est bien correct, puis des fois, finalement, non, ça ressort toujours. Ça ressort. Ça peut ressortir dans un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, mais ça finit par ressortir. Donc, il faut régler, ne pas les fuir. Autant que cela dépend de vous, hein, comme Romains 12 nous dit. On veut être en paix, on veut régler nos choses. Autant que cela dépend de vous, parce que parfois je veux et que l'autre ne veut pas, ben je ne peux pas toujours forcer les choses. Admettez vos torts. Ça, c'est dur. Moi, je me souviens, en imprimerie, je m'étais obstiné avec quelqu'un, un employé. Je dis, t'as pas coupé comme il faut la job. Il dit, oui, j'ai coupé. Puis, à un moment donné, j'ai pris la feuille, j'ai dit, je vais la couper comme il faut devant tes yeux, là, sur les Mac. Puis, j'y ai montré, tu vois, ça, c'est... j'ai dit, t'as pas bien coupé. Il dit, oui, j'ai bien coupé. Jusqu'à la fin, il m'a... Même devant l'épreuve, mais voyons. Ça, c'est un champion du monde en passant. Mais, on est tous champions du monde dans notre catégorie, peut-être. Admettez vos torts. Admettez vos torts. C'est dur. Puis, refusez dernièrement de potiner. Le potinage, le commérage. Puis souvent, on va dire, ouais, mais c'est parce qu'on veut prier pour la personne. T'sais. Mais ça, là, c'est tellement n'importe quoi. On en parle parce qu'on veut prier. Mais oui, mais prie, puis va voir la personne direct. On parle pas aux bonnes personnes souvent. Puis ça, ça crée du problème. Puis éventuellement, ça sort, ça sait, puis ça brise l'unité, ça brise la confiance. Donc, c'est quelque chose qu'il faut refuser. Donc, 11h30, je résume les 5 impératifs. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le résultat, bien, le Dieu d'amour sera avec vous. Donc, Paul termine avec le modèle parfait de l'unité parce qu'il dit au verset 13 « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Il termine avec la Trinité. Il parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au verset 13. Le Fils qui s'est dépouillé, qui est venu mourir. Le Père qui donne ce qu'il y a de plus précieux. Saint-Esprit qui nous unit par la nouvelle naissance. Donc, soyons aussi unis. Je termine par la prière. Seigneur, merci encore pour cette belle lettre de 2 Corinthiens. Beaucoup de vérité. On a passé rapidement sur... ces points-là, qu'on aurait pu dire beaucoup d'autres choses. Mais aide-nous, Seigneur, de juste nous rappeler à chacun individuel qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on est dans un moment où est-ce qu'on notre joie dépend des circonstances, puis on a perdu notre joie, qu'on puisse ramener à Christ? Est-ce qu'on a besoin de travailler sur quelque chose dans notre vie, se perfectionner, mais laisser le Saint-Esprit aussi se manifester dans notre vie? Est-ce qu'on a besoin aussi de travailler sur notre unité, d'être, Seigneur, de se pardonner les uns les autres. Donc, que chacun puisse retirer ce que tu as pour lui, pour elle. Bénis aussi cette Église, bénis le témoignage, les efforts d'évangélisation avec ce film. Que, Seigneur, tu puisses puissamment intervenir et sauver des gens ici aux alentours. Et on te remercie encore pour ce privilège qu'on peut de prêcher, partager, ouvrir ta parole. Au nom de Jésus que je prie. Amen.